Alors bienvenue à Regards Croisés avec Arlette Farah et
Boris, je ne t'entends plus. Hein.
Et Fulgence Blas. Donc bonjour Fulgence. Aujourd'hui, on va parler programmation printanière de l'Agora de la Danse avec sa directrice générale et artistique Francine Bernier en première partie. Et ensuite, en deuxième partie, nous aurons Thomas-Louis Côté, directeur du Festival BD de Québec, qui va nous présenter le déroulement de la 34e édition. Alors, avant de discuter avec notre premier invité, on va partir en musique avec Vincent Vallière et Ingrid Saint-Pierre qui nous chantent « On dansera sous la pluie ».
Marie, tu me rappelles que rien n'est perdu d'avance, qu'il n'est jamais plus tard qu'on pense. Marie, tu me rappelles que cette journée qui commence est en soi une nouvelle chance. Marie, tu me rappelles que chaque feuille blanche peut devenir un paysage immense. Je dessine un oiseau dans ton dos. Toi tu frissonnes et tu souris, puis tu me dis bonne nuit. On ira jouer demain au bord de l'eau. Et si c'est l'orage Marie, on dansera sous la pluie. Marie tu me rappelles que la poésie est partout, même si le monde est faux. Marie, tu me rappelles qu'il n'est pas question de trop s'en faire, faut laisser couler la rivière. Marie, tu me rappelles que chaque feuille qui se balance s'abandonne au vent et puis danse. Je dessine un oiseau dans ton dos. Tu frissonnes et tu souris, puis tu me dis bonne nuit. On ira jouer demain au bord de l'eau. Et si c'est l'orage Marie, on dansera sous la pluie. Et si c'est l'orage Marie, on dansera sous la pluie. C'est l'orage Marie.
Alors comme je vous le disais tout à l'heure, on va parler danse, on va parler printemps et puis on est avec Francine Bernier, la directrice générale et artistique de l'Agora de la Danse. Bonjour Francine Bernier.
Oui, bonjour.
Bonjour, avec vous au moins on va danser, avoir du plaisir. Alors avant qu'on commence à parler de chaque spectacle qu'il va y avoir, avec les nouvelles directives qu'il y a eu, est-ce qu'on va continuer quand même à pouvoir suivre des spectacles à l'Agora de la Danse? Est-ce qu'il y aura des changements d'horaire, des choses comme ça?
Oui, changement d'horaire, il le faut. Vous savez que les spectacles de danse ont habituellement une durée de 60 minutes.
Oui.
Alors, on a décidé de ramener notre horaire, puisque c'était 19h. Donc là, on a ramené l'horaire des représentations à 18h.
D'accord.
Donc, ça vous donne une heure pour revenir à la maison.
Hein? OK, je comprends.
C'est plutôt bien.
Donc, ce qui était prévu à 19h, en fait, remonte à 18h, c'est ça?
C'est ça. Et donc, ça vous permet, si vous travaillez de la maison, de quand même partir. Vous avez une heure pour arriver à l'Agora, au Wider. Hein? On est dans l'édifice Wider. Et ensuite, vous avez une heure pour retourner à la maison avant le couvre-feu.
Alors, commençons avec tout ce qu'il y a de prévu. Commençons avec Punchline.
Oui,
de Jacques Poulain-Denis. Donc, c'est un. D'abord, une petite question qui me rend un petit peu curieuse. Est-ce que tous les spectacles qui vont être présentés ont été construits après avoir eu la pandémie ou pas?
Oui.
Parce que tout vient tellement dans ce qui se passe que je me suis dit, c'est pas possible que ça ait été écrit avant.
Non, ça n'a pas été écrit avant.
D'accord.
Mais en même temps, je vous dis ça, mais pas tout à fait. Il y en avait qui étaient amorcés, que le travail était amorcé.
D'accord.
Et il y en a comme punchline qu'il devait faire une pièce de groupe. Donc, il a fallu modifier, bien entendu, l'ensemble de la programmation, puisqu'on s'est retrouvé avec la danse, mais de la danse où on ne peut plus se toucher.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et surtout avec des pièces de groupe, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a eu toute cette problématique-là. On parle d'il y a un an. Et là, on a songé de faire des solos. Et
oui.
Nous avons un duo qui c'est homme-femme.
Qui sont mariés.
Un couple, voilà.
Voilà.
qui vit et qui attend même un bébé.
D'accord.
Il a fallu modifier et reprendre.
Alors,
donc, avec Punchline, Jacques Poulin-Denis, il y avait une pièce de groupe. J'ai discuté avec lui et Jacques avait dans ses cartons un solo qui avait déjà réfléchi, qui avait une ligne directrice, qu'il voulait faire l'année prochaine.
Ah, d'accord.
Alors, voilà, donc je lui ai demandé s'il pouvait la devancer et changer. Et donc, faire la pièce de groupe beaucoup plus tard. Et c'est ce qu'il a décidé de faire. Donc, ce qu'on voit, c'est une idée qu'il avait et qu'il a créée l'automne dernier. On devait la présenter l'automne.
Oui.
Et ça a arrêté. Écoutez, j'ai vu la générale du spectacle et on a ramassé l'ensemble des objets, de tout ce qu'on avait, et Jacques est rentré à la maison puisqu'on ne pouvait pas le faire.
D'accord.
Donc là, on a la chance, c'est demain. Alors, je crois bien que demain, nous ne serons pas arrêtés. Hein?
Ben écoutez, on croise les doigts. En tout cas, moi, je ferai partie des gens qui regarderont sur le web, puisque ayant l'émission entre 17h et 18h, j'ai plus la possibilité d'aller vous voir en salle comme je le faisais quand c'était à 19h, mais c'est pas grave, ça reviendra.
Ça reviendra.
Et puis parce qu'il y a, aussi la possibilité évidemment de le voir sur le web. Alors ça, c'est comme un monologue où il passe, dit-il, à travers des récits et des anecdotes, soit dans la folie, soit dans la clairvoyance, soit dans de l'absurdité aussi, et dans la contradiction, c'est ça, hein?
C'est bien ça, c'est bien ça. Et il parle de Jacques. Et il parle, mais on ne sait pas si c'est vraiment lui, le danseur, Jacques, ou
oui.
Si c'est un Jacques magnifié, ou un Jacques, quelle sorte de Jacques on se retrouve tout le long.
D'accord.
Il y a plusieurs Jacques. Donc, on se retrouve avec Jacques Jacques Poulin-Denis est aussi compositeur de musique. C'est un garçon extrêmement talentueux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur scène.
Oui.
Est-ce que vous l'avez vu?
Oui. Oui.
Donc, vous avez vu un performeur.
Oui, tout à fait.
Hein? C'est un performeur extraordinaire et il peut jouer effectivement avec les mots, l'ensemble de son corps. Et voilà.
C'est aussi ça parce que le punchline, enfin le punch, c'est quand on raconte une histoire et puis que on fait rire les gens à la fin, c'est ça le punch quoi. C'est ça aussi.
Mais,
c'est de la même façon.
Mais on va voir si demain il réussit bien. Hein? Son punchline, et qu'est-ce qu'il nous raconte par rapport à ça. Non, je vous avoue que. Il y a de la profondeur, il y a toute une remise en question, il nous parle de ses doutes, de sa vie intérieure, mais c'est amusant, effectivement. C'est léger, ça fait du bien. Ça fait du bien dans cette période de voir qu'un garçon qui est un créateur extraordinaire livre comme ça, tout dans sa vie, mais d'une manière vraiment légère et qui utilise le punch.
Amusante.
Oui. Oh oui, qu'on voit peu quand même en danse contemporaine.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause musicale et puis on reviendra après, puis on parlera de trois autres spectacles dont je voudrais qu'on dise un petit mot également aussi. D'accord. Qui sont chaque fois des histoires très qui ont l'air extrêmement touchantes, dont Bouleversement, dont on va parler tout de suite après la chanson de Gilles Barbert qui nous chante Le monde est beau.
Je vois les étoiles dans tes yeux, je vois tout le ciel et son grand bleu. Chaque fois que je tombe dans tes bras, les oiseaux chantent et ma peur. J'aime quand tu t'occupes de mon cœur, quand on rit tant que l'on en oublie l'heure. J'espère qu'on aura toujours ce bonheur, notre amour tendre comme une fleur. Le monde est beau. J'adore chaque nouveau matin. Dans nos draps blancs, main dans la main, une belle lumière tombe sur notre lit. Est-ce réel qu'une fantaisie? Avec toi la vie est une jolie vacance. Au bord de la mer, les vagues qui dansent sur la terrasse. Le parfum du sel reste sur nos corps. Mémoire éternelle. Le monde est beau, oh, oh, le monde est beau, oh, oh, le monde est beau, oh, oh. Grâce à toi, le monde est beau, oh, oh, le monde est beau, oh, oh, le monde est beau, oh, oh. C'est comme un rêve pour mes pieds, mais tu chemines. C'est un tableau, couleur pastel, un cadeau qui nous rappelle le monde est beau. Et le monde est beau, oh, oh, le monde est beau, oh, oh, le monde est beau, oh, oh. Grâce à toi.
Alors Francine Bernier, juste avant qu'on continue sur les autres spectacles, je veux simplement préciser que Punchline a lieu du 14, 15, 16 et 20, 21, 22, 23 avril, et même le 17 et le 24 aussi, à des heures différentes. Donc les premières dates, c'est à 18h, c'est ça? Maintenant, c'est revenu à 18h, et le 17 et le 24 qui est à 16h, c'est toujours à 16h?
Oui. Le samedi à 16h.
Voilà. Alors maintenant, j'aimerais qu'on dise un petit mot, avec le temps qui nous reste, qu'on aborde un peu deux, trois spectacles aussi qui sont là. C'est celui de la fin du mois d'avril qui s'appelle Bouleversement et qui porte très bien son nom, d'Estelle Clareton. Donc, quand on lit l'histoire, une femme qui s'agite et se cabre en proie à une peur insondable, face à une menace inéluctable, elle tente de dompter l'implacable mécanique de l'angoisse entre stupeur, détresse et vibrante résistance. Alors là, c'est venu me chercher, ça m'a très intéressé d'aller voir ce spectacle-là aussi.
Oui. Estelle Clareton travaille beaucoup dans l'esprit de la danse-théâtre.
Oui.
C'est le seul spectacle. Il est en cours de création.
D'accord.
Alors, c'est le seul que je n'ai pas vu encore.
Ah, d'accord.
Alors, il est vraiment en plein processus.
Oui, okay.
Je travaille depuis peut-être une vingtaine d'années avec Estelle. ça fait très longtemps, ça fait plusieurs années qu'elle me parle, qu'elle veut faire ce solo avec Esther Rousseau-Morin. Elles ont commencé à travailler il y a une couple d'années. Esther est tombée enceinte. On a remis un peu plus tard le solo. Et là, il arrive. Et pour Estelle, c'est important de parler de la mécanique d'angoisse où la plupart des personnes en font. On n'en parle pas.
Oui.
Quelle est cette mécanique et comment on se retrouve à être angoissé, à avoir si peur? Et pour elle, elle avait vraiment besoin de livrer. Et c'est compliqué de faire ça sur scène, de telles émotions. Alors, c'est ce qu'on va voir à la fin du mois d'avril.
Ah ben oui, c'est le 28, 29, 30 avril. Alors là, pareil, ce qui devait être à 19h sera donc à 18h.
C'est ça.
Il reste le 1er mai à 16h. Pour ceux qui sont en salle, moi, personnellement, je fais partie du public qui préfère être en salle pour ressentir l'émotion des quelques personnes qui sont là, qu'on laisse rentrer vu la distance qu'il faut avoir. Mais c'est bien aussi de le voir sur le web.
Oui, entendons-nous. On a le choix.
Et puis, alors après, on va parler, pour pouvoir parler des trois, donc on va parler de la question des fleurs. Ça, c'est début mai.
Oui.
Début mai, on a peut-être une petite chance qu'on nous rallonge de nouveau l'heure.
On espère. Je vous avoue que là, on ne change pas tout de suite. Hein? On espère que là... On aura dû le couvre-feu au moins à 20h. En tout cas, moi, je l'espère et j'ai décidé que je ne changeais pas pour le moment.
D'accord.
Les spectacles, l'heure des spectacles du mois de mai.
Vous faites bien.
Ah oui.
Donc, la question des fleurs, c'est là où nous retrouvons le couple à la vie comme à la scène. Hein?
C'est ça, tout à fait. Qui sont deux interprètes. Ce ne sont pas des chorégraphes, des interprètes, Daphné Laurando et Dany Morissette. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réuni quatre chorégraphes qui ont donc créé pour eux, dont un, Christophe Garcia, était en Europe,
oui.
En plein dans la pandémie de l'automne dernier. Et donc, il était sur Zoom.
Et ah, d'accord.
Et a été créé à partir de l'écran où il voyait... ce qui se passait sur scène.
D'accord.
Donc, quatre chorégraphes, ça dure une heure. On a l'impression que, en même temps, c'est un spectacle complet. On a l'impression que c'est peut-être le même chorégraphe. Et par petits bouts, sections, Dominique Porte, c'est plus léger. D'autres, c'est plus technique. Et Ismaël Mouaraki, qui habituellement fait de la danse urbaine, est beaucoup plus classique et c'est vraiment un très beau spectacle à voir, de voir
oui.
Quatre le travail et ce qu'ils ont fait.
Et puis aussi, en étant sur scène et en étant en formant le couple, ils nous redonnent le goût de ce qu'on a perdu, c'est-à-dire le goût de s'embrasser, de se toucher, de s'approcher.
Non, c'est très troublant. Parce que nous, on l'a vu juste avant Noël, et bien entendu, nous, maintenant plus habitués à ça, au toucher, à du monde qui se touche tout d'un coup, c'est très troublant.
Ben oui,
ça
nous a manqué. Alors du coup, comme on en est privé, on le regarde d'une autre manière, d'une manière différente. Et puis, on va parler aussi, alors ça c'est plus mi-mai, on va dire, le 11, 12, 13, 14 mai, et... à 18h ou 19h selon l'heure de fermeture et à 15h, le 15 mai également, à 16h.
Le 15 mai, 16h, oui.
Ça s'appelle « Se dissoudre », qui est la dernière création de Catherine Godet.
Tout à fait. C'est un spectacle que ça fait déjà deux fois que je remets. Donc, je tiens à le présenter. Ce n'est pas un spectacle qui est présentement que nous avons prévu sur le web. Parce que c'est un travail qui est très délicat et il faut vraiment être sur, il faut être en salle et voir cette interprète, Marie-Philippe Santerre, elle est complètement extraordinaire, jeune interprète que je ne connaissais pas, que j'ai découvert donc l'automne dernier, elle est vraiment magnifique et ce qu'elle fait passer entre la scène et la salle, c'est bouleversant aussi.
Parce que c'est vraiment le... Excusez-moi, je vous ai coupé. C'est vraiment le moment du printemps. Quand on le voit, ça donne cette... vous savez, ce moment d'attente, d'abord qu'on n'était pas capable d'avoir avec soi quand on s'est retrouvé enfermé, déjà, pour ne parler que de nous. et puis ensuite, cette attente quand la graine elle est plantée dans la terre, puis que d'un coup, les pousses vertes, les fleurs, les tiges vont commencer à sortir. Donc, ça donne le sentiment à la fois de la terre et à la fois de nous, ce qu'on est capable de sortir de nous quand on se retrouve dans une situation où tout ce qui nous était facile et qu'on ne voyait plus, puisque c'était tellement facile qu'on le faisait tous les jours sans même se rendre compte de ce qu'on faisait, et que la pandémie nous a supprimés brutalement.
Oui, vous en parlez bien, comme si vous aviez vu le spectacle.
Non, je ne l'ai pas encore vu, mais ça m'intéresse. Non, mais... J'ai très, très envie de le voir, celui-ci aussi. Donc, voilà.
Ah, oui, moi, je trouve qu'il faut voir absolument ce travail-là qui est fait. Alors, j'espère bien qu'à la mi-mai, on va pouvoir le présenter. Et s'il faut que je le remette encore et que je prévoie d'autres dates, je vais le faire.
Ah ben
moi,
oui.
Je suis vraiment tendue sur ce spectacle. J'y tiens. Voilà.
Je comprends ça complètement. Comment on fait? Donc, on va sur le site de l'Agora de la danse, on choisit les spectacles. Est-ce qu'il y a, quand on le prend sur le web, est-ce qu'il y a des tarifs pour chaque spectacle ou des tarifs quand on prend les trois ou quatre qui se suivent? Comment ça se passe?
On l'a fait par spectacle.
Par spectacle, d'accord.
Oui, et normalement, là, je vous avoue que je me souviens moins de tous les tarifs et de comment...
C'est pas grave, on ira voir sur le site.
Oui, voilà, parce qu'à faire, défaire, refaire, je vous avoue qu'à un moment donné, on perd complètement
ça.
La notion.
Parce que en arrivant à la fin de cette entrevue, il nous reste encore 2 minutes, mais je voulais savoir, vous personnellement, comment vous vous sentez là maintenant, aujourd'hui?
Aujourd'hui, il fait soleil, il fait beau.
Vous en profitez.
J'arrête d'aller me promener. Écoutez, j'ai beaucoup de résilience, alors et je suis une battante, vous voyez.
Oui.
Je suis capable de remettre un spectacle 3 fois et de m'obstiner et de dire « nous le présenterons ». C'est pas toujours évident. Là,
ah oui, je me doute.
Je vous avoue que la semaine dernière, c'était plus difficile. Là.
Oui.
Coup sur coup, là, avec tous les changements qu'il faut toujours faire. Moi, je crois qu'à partir de demain, ça va aller mieux parce qu'on va faire un premier spectacle. On n'a pas fait de présentation en salle là, depuis un an.
Oui, alors, ça va faire du bien.
Oui, voilà. Ça d'accord. va vraiment faire du bien pour ça. Je crois que ça va aider beaucoup. Et d'accord. D'ailleurs... Vous savez que j'ai un projet qui s'appelle Regards croisés.
Ah bon?
Ah oui.
Hein? D'accord.
Alors, et que, juste pour terminer là, oui. Que faire le lien avec...
On termine dessus?
Oui. On a commencé ça il y a au mois de mars. On a fait des rencontres, on discute avec de nos collègues européens.
D'accord.
Donc, la prochaine, c'est le 6 mai. C'est avec Angels Marguerite, qui est la directrice de la salle de spectacle à Barcelone. Et on discute, on jette un regard sur ce qu'on vit présentement.
Mais écoutez, alors, j'espère que vous reviendrez nous en parler.
D'accord.
Pour qu'on parle de tout ça, parce que là, on arrive à la fin de l'entrevue, mais je vous invite à revenir nous en parler au mois de mai. Peut-être avec plus de facilité que ça aujourd'hui, avec ce qui nous arrive aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas. Et
merci à vous.
On se quitte avec la chanson Solidarité, la Momali. Au revoir.
C'est beau. Merci. Yeah, 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 la. Yeah, 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 la. I don't love a new beat, but not know the world. What is that up for? I got me don't know like me. What the hell they fighting for? Us further apart, but it do not know you can't rule another's heart. You can't get a love below. Solidarité. Solidarité. J'ancrais l'espérance aux racines de ma vie. Plan
plaisir des nuits.
'Encore, donc on vient d'entendre le groupe Lamo Mali qui nous chante Solidarité. Et puis restez avec nous parce que dans la prochaine demi-heure, on parle du Festival BD Québec. Donc c'est la 34e édition. Alors ne quittez pas, on vous revient tout de suite après ça.
Écoutez Regards croisés avec Fulgence Blas et Arlette Farah.
Là, on vient d'écouter de la chute Sophia, du pied à la pièce, c'est Sophia. On a déjà notre invité au téléphone, M. Thomas Louis Côté, directeur général de Québec BD. BD, pour ceux qui ne savent pas, c'est bande dessinée, bien évidemment. Faites-vous la vraie version. Et malheureusement, c'est la deuxième année virtuelle, hein, si je ne me trompe pas, M. Côté.
Bonjour.
Bonjour. Donc, effectivement, on a subi l'annulation l'an dernier à la dernière minute, et cette année, on s'est enligné pour une nouvelle version en ligne.
Oui, oui, oui. Voilà. Alors, comment ça? Ça a démarré depuis le 9. Aujourd'hui, c'est le 13 déjà, c'est jusqu'au 13 juin. Ça prend du temps quand même. Je pense même que les amoureux de BD, cette année, vont être gâtés. Ce festival, il existe depuis combien d'années?
Donc, le festival est né en 1988, donc ça fait que 34 ans déjà. Et c'est ça, l'événement a eu différentes vies, si on veut, mais depuis quelques années, on se disperse dans différents lieux, à Québec principalement, que ce soit le Salon du Livre, les musées, les bibliothèques ou même des cafés. Puis là, ça fait... L'an dernier, ça a été une année très tranquille vu l'annulation, mais cette année, on a décidé d'y aller dans la même optique, donc de s'étendre et d'être un peu partout, donc mais cette fois-ci dans le calendrier. Donc, on a décidé de faire l'événement sur 2 mois.
Sur 2 mois. Ils ne vont pas se plaindre, les amoureux du BDR.
Non, puis et aussi, dans le fond, l'idée derrière tout ça, c'est pour permettre au public d'en profiter au maximum, parce que on le sait, on passe beaucoup la semaine devant l'écran, on n'a pas nécessairement envie de passer le week-end non plus oui. Concentré sur un événement. Donc, oui. Dans l'optique de le présenter sur 2 mois et que la programmation soit relativement longue. Là, par exemple, on a un spectacle qu'on a présenté vendredi soir, bien, qui est disponible en ligne pour une semaine, bien, ça donne le temps aux gens de le consulter puis de le regarder.
De se rattraper pour ceux qui n'ont pas vu ça, qui n'ont pas pu voir ça en direct.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Voilà. Alors, je vous dis, bonne 34e édition, hein? C'est 34e édition. C'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours, 34 ans quand même. Waouh. Bravo. Et puis, ça fait 16 ans que vous êtes à la tête de Québec BD.
Exactement. Donc, c'est ma 15e ou 16e édition cette année que j'organise. Donc, je peux dire que j'en ai connu des versions complètement différentes. Là.
Oui,
j'organise
oui.
Dans mon sous-sol, tout à distance.
Vous en avez vu. Hein. Ouais. Quels sont les faits saillants de cette 34e édition du festival?
Ben, on a des éléments comme le spectacle Le poète et le coiffeur qui a été présenté vendredi, mais que vous pouvez écouter jusqu'à vendredi prochain, qui est un spectacle sur l'univers de Leonard Cohen. Mais on a aussi des tutos BD. Donc, tous les samedis matins, il y a un nouvel atelier qui est mis en ligne pour les jeunes. Pour apprendre à faire de la bande dessinée ou à dessiner des personnages. Donc ça, c'est très intéressant. On a un autre spectacle samedi prochain, donc de contes et BD. Samedi soir, un spectacle qui allie un long conte, près d'une heure de conte, mais illustré en direct par des dessinateurs. On a une émission aussi une émission en ligne, mais sous un modèle d'émission de télé qu'on présente tous les samedis, qui s'appelle Par la bande. Donc ça permet de découvrir différents auteurs et de traiter différentes thématiques en lien avec la bande dessinée. Il y aura 9 épisodes de ça. Puis on a des moments de détente en dessin, on a des rencontres entre auteurs autour d'un verre, il y a même des soirées de lutte BD. Donc, on était vraiment assez éclatés dans la programmation.
Je vais prendre la balle au bon quand on parlait de toi. Il y a combien de BDistes même qui participent à l'événement?
Au niveau des auteurs, si on doit être à une 50aine d'auteurs qui sont représentés, peut-être une 60aine là, qui sont représentés dans l'événement d'une façon ou d'une autre. Pour ce qui est de Par la bande, on est à une 30aine d'auteurs certainement qui participent. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Mais contrairement à ce qu'on fait habituellement, où on reçoit vraiment près de 125 auteurs lors de l'événement, dans un contexte numérique, l'idée est de créer des rencontres peut-être plus poussées. Donc, ça implique qu'on ait moins de gens aussi d'impliqués. Mais donc, on y va pour moins, mais mieux cette année au niveau des rencontres avec les auteurs.
Oui. Oh, quel beau travail. Et encore, si je peux demander, mais à qui s'adresse ce festival, au fait? À tout le monde?
Ben, tout le monde, c'est ça. On a, l'idée, c'est que la bande dessinée, c'est, on a souvent pensé que c'était un médium qui s'adressait aux jeunes, alors que pour, c'est très varié, puis il y en a pour tous les goûts de tous les publics.
Oh, oui.
Donc, en fonction du type de littérature que vous aimez ou un type de film que vous aimez, vous allez pouvoir trouver un équivalent en bande dessinée. Donc, ça se reflète dans notre programmation où on s'adresse autant aux adultes qu'aux jeunes. Et on a plutôt des activités spécifiques pour différents publics, mais on s'adresse à tous.
Ouais, génial. Bon, moi, de toute façon, je vais me retrouver. De toute façon, avec mon âge, mais je me vois comme un enfant. Je vais passer le temps avec vous virtuellement jusqu'au 13 juin 2021, ça c'est clair. Mais est-ce que vous pensez que le 9e art, là, doit faire encore beaucoup de chemin afin de se faire connaître du grand public? Comme vous l'avez dit, les gens pensent toujours que c'est pour les enfants. Alors que non, en tant qu'adulte, oui, quelque part, on est toujours enfant.
Exactement, mais moi, j'ai 45 ans et j'ai lu de la BD depuis que je suis jeune et on m'a jamais interdit d'en lire par la suite, ce qui m'a permis de me développer des goûts pour de la bande dessinée plus adulte. Puis je pense que je suis pas seul, parce que si je regarde, même les médias commencent à en parler de plus en plus de la bande dessinée. Et parce que les gens de la génération de mes parents se sont fait dire très tôt que c'était pour les enfants, donc ils n'ont pas continué à en lire. Alors que là, il y a un nouveau lectorat qui recherche différentes choses, qui est plus curieux aussi. Puis les médias le reflètent aussi. Donc ça permet d'en apprendre un peu plus à chaque fois. Mais ça se développe tranquillement.
Mm-hmm. C'est certain. Votre 34e édition me permet de m'y remettre. Hein. J'étais un amoureux des BD à l'époque.
Ah oui.
Je veux m'y remettre. Vous pensez réunir à peu près combien de personnes? On sait que c'est pas en salle, bon, c'est virtuel. Bon, tous ceux qui ont accès à Internet pourront avoir accès à tous les événements, bien sûr.
Oui, mais c'est ça, c'est difficile d'estimer, parce qu'on voit les nombres de vues sur Facebook, sur YouTube et tout, puis on sait qu'on a quand même une auditoire assez large. Mais si je regarde, par exemple, on a fait vendredi dernier un webinaire sur la bande dessinée québécoise. Donc, ça s'adressait plus à des gens qui étaient curieux du marché de la bande dessinée au Québec ou de l'histoire de la bande dessinée au Québec. Puis on a eu 230 inscrits et on avait des gens du Canada, bien sûr, mais aussi du Mexique, de la France, de la Belgique, du Brésil. On avait quelqu'un d'Éthiopie. On avait des gens d'un peu partout. Donc, c'est l'avantage un peu de faire un événement en ligne. C'est qu'on
en ligne,
on juste le public local. C'est un public qui est global. Fait qu'on peut avoir des gens en Asie qui vont s'intéresser à certaines de nos activités.
Ça c'est clair. Ça devient international. Ce n'est plus local.
Exact.
Voilà. Même si on revient à un semblant de normalité, vous allez faire en version hybride, salle et web en même temps, si je ne me trompe pas.
Ben, il y a des éléments qu'on va continuer effectivement à diffuser en ligne. Mais on a quand même la volonté de favoriser la rencontre entre l'auteur et le public.
Si on revient à un semblant de normalité.
Oui, les gens vont rechercher ça aussi beaucoup. Mais on va quand même maintenir certaines diffusions puis des initiatives, parce qu'on va avoir développé une certaine expertise, si on veut,
c'est
là-dedans. C'est plus compliqué cette fois-ci, ça va être plus simple par la suite.
C'est compliqué, ça va être plus simple un peu plus tard. Bon, on va faire une petite pause musicale et puis on vous revient pour une deuxième partie, la deuxième partie de l'entrevue.
Parfait.
Voilà, là, on vient d'écouter Brigand Moody. Moody, c'est le titre de la pièce. Monsieur Côté?
Oui.
Alors oui, alors on est de retour avec vous. Il y a ma collègue Arlette qui a une question pour vous.
En fait, je regardais la liste de tout ce que vous aviez. Donc, on est toujours de retour avec Thomas-Louis Côté. Et je voyais que ça va loin parce que ça va même la BD, on va dire, aujourd'hui historique. Puisque il y a la BD Les Enfants de la Résistance, être jeune en 39-45. Donc
oui, mais c'est une exposition, numérique qui nous a été qui nous a été offerte donc par l'éditeur et qui permet de découvrir cette série là qui est une série française mais à travers une exposition virtuelle.
Ah ok. J'avais vu ça, ah, ça m'avait interpellé. Je lui ai dit, tiens, ça apprend aux enfants aussi l'histoire autrement que de l'apprendre dans les livres d'histoire et de compliquer la vie. C'est peut-être plus facile en bande dessinée de voir certaines choses.
Mais c'est sûr que ça permet de découvrir des fois certains sujets. Là. C'est un peu l'avantage de la bande dessinée. C'est que ça vient chercher des fois, c'est un public plus jeune. C'est une porte d'entrée vers la lecture, mais c'est aussi une porte d'entrée vers différents sujets, que ce soit historique, pédagogique ou même scientifique. Donc, ça permet de regarder les choses autrement. Puis des fois, même au niveau de certaines bandes dessinées qui sont destinées à un public adulte, ça peut permettre d'aborder des sujets qui seraient difficiles à aborder autrement. Il y a la bande dessinée à qui on a remis le prix Grand Prix de la Ville de Québec cette année, c'est « Vous avez détruit la beauté du monde », qui est une recherche sur le suicide qui a été mise en bande dessinée. Sur le suicide au Québec, l'histoire du suicide au Québec. Et c'est quelque chose qui, en documentaire ou en reportage photo, n'aurait pas été possible. Mais en bande dessinée, tout à coup, et c'est une bande dessinée qui s'adresse à un public adulte, on s'entend, mais ça permet d'avoir un regard différent sur le sujet, puis de le présenter de façon plus digeste, si on veut, qu'une thèse de doctorat.
On avait eu la chance de les recevoir avec Fulgence pour parler de ce livre-là, donc c'était bien. Mais je vous laisse de nouveau avec lui. Puis moi, j'avais bien aimé aussi, il y a des tutos BD, donc ça veut dire que si on veut s'y mettre, on peut même apprendre à le faire.
Exactement. Donc ça, c'est tous les samedis matins. Ça permet aux gens de découvrir comment dessiner des personnages et des scénarios. Et tout. Donc c'est vraiment pour tous.
C'est pas mal.
Moi, je ne vais pas me mettre à dessiner, mais je vais me mettre à relire, à me plonger dans les BD comme quand j'étais enfant, quand j'étais jeune. Monsieur Côté.
Oui, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire à raconter aussi, tu sais, derrière. C'est bien.
Voilà, pourquoi pas. Monsieur Côté. Oui. Quelles sont vos sources de financement ou bien qui sont vos partenaires depuis 34 ans?
C'est sûr qu'on compte sur nos... depuis 34 ans, ça a évolué, ça a changé beaucoup. Mais c'est sûr qu'on compte sur des partenaires publics, que ce soit la Ville de Québec, le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada. Mais on travaille aussi avec la Fabrique culturelle de Télé-Québec. On a des partenaires comme le réseau Les Libraires, la librairie Pantoute, Brouillard Communication et d'autres. Donc, on essaie d'aller chercher des partenaires à chaque année pour atteindre nos objectifs.
Oh, génial. Alors, profitez de l'antenne pour lui dire merci, au moins.
c'est certain que nos partenaires sont précieux.
Oui. Mais pour cette 34e édition-là, qu'est-ce qui vous rend le plus fier de ce festival?
Ben, je vous dirais que le simple fait de présenter une édition, c'est déjà un gros succès pour nous, parce que on a été dans une incertitude jusqu'au mois de janvier ou à peu près sur la forme qu'allait prendre l'édition cette année, parce qu'on savait pas s'il allait avoir du présentiel, si on allait être seulement en numérique, puis qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire. Donc on s'est fixé en janvier et on a fixé nos bases de programmation justement pour voir comment on pouvait réinventer, si on veut, les événements en ligne, mais le faire différemment de ce qui a été fait dans l'année. Fait que je suis très content de voir que ce qu'on propose plaît et que la formule aussi sur 2 mois, qui était pour nous quelque chose qui était plus audacieux parce qu'on était habitué de faire des événements de courte durée, finalement répond à un certain besoin. Mes succès ne sont peut-être pas dans les éléments individuels de programmation, bien qu'il y en ait que je suis très content, mais c'est plus dans la forme et le fait qu'on puisse le présenter cette année que je suis très content.
Wow, génial. Est-ce que vous trouvez que dans cette crise sanitaire, depuis cette crise, les habitudes des BDistes, les consommateurs de BD ont changé? Est-ce que leurs habitudes ont changé chez les adeptes de BD?
Je pense, ma vision de la chose, c'est que c'est peut-être plus difficile d'y aller vers la découverte, au sens où les gens sont habitués d'aller en librairie, de se faire conseiller des choses par des libraires, alors oui. que là, on achète beaucoup en ligne. Donc, en achetant en ligne, on achète beaucoup ce qu'on connaît.
Oui.
C'est ma perception de la chose. Cela dit, la bande dessinée est un des secteurs qui s'en sort le mieux au niveau des ventes pendant le confinement. Et le livre se porte très bien déjà. Mais se porte très bien. Je veux dire, les ventes de livres sont très bonnes pendant le confinement. Et la bande dessinée est un des secteurs qui se démarque aussi à ce niveau-là. Fait que, je veux dire que les gens sont intéressés par la lecture, puis sont dans un mode où on est à la maison beaucoup, on essaie de lire plus aussi, je crois.
Oui.
On a plus de temps.
Ah, ça, c'est certain.
Mais en tant que citoyen, normal, monsieur, madame, tout le monde, de quelle manière, en tant que citoyen, on peut encourager concrètement ce festival-là, comme le vôtre?
Bien, pour nous, le simple fait de venir voir les activités, c'est pour nous, c'est parfait. Si jamais vous voulez encourager au niveau des auteurs puis des éditeurs qui participent au festival, ben on a un salon virtuel du 9e art, donc qui est un salon où vous pouvez aller bouquiner par éditeur les titres et faire des achats via le site Les Libraires. Donc c'est certain que d'aller se procurer une ou deux BD, ben ça peut mettre l'épaule à la roue là, pour faire rouler le milieu de la bande dessinée au Québec.
Là. C'est ça, c'est là où je vous rends bien. Merci bien. Avant de terminer rapidement, parlez-nous un peu des prix BDIS Causa.
Oui. Donc, ben, les prix BDIS Causa, c'est des prix qu'on remet depuis les débuts de l'événement. Et cette année, on a fait une remise de prix en ligne, la deuxième encore là.
J'ai vu la vidéo.
Puis on a fait une remise de prix relativement courte dans la durée, donc pour que les gens restent intéressés. Et on a invité des différentes personnalités québécoises à venir annoncer les lauréats. Fait que c'est un petit clin d'œil sympathique qu'on a fait, mais on a pu récompenser, il y a 8 catégories, donc des différents albums québécois principalement. Et aussi, il y a un prix hommage qui a été remis à Julie Doucet, qui est une auteure montréalaise qui a fait ses marques à l'international, là, beaucoup.
Oui, oui. Ouais.
Et, bravo. Une auteure qui vient du domaine alternatif de la bande dessinée. Ouais.
C'est ça. Bravo. Merci beaucoup à vous. Et puis, vous êtes depuis 16 ans à la tête de ce mouvement, de ce comité général Québec BD. C'est la 34e édition de ce festival. C'est jusqu'au 13 juin, ça a commencé le 9 avril, c'est jusqu'au 13 juin. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début, M. Côté, je vais m'y remettre votre...
Belle manière de s'amuser et d'apprendre en même temps.
Exact.
Merci.
Merci beaucoup à vous. Bon festival et au plaisir de vous réentendre.
Merci.
Au revoir.
OK, au plaisir. Au revoir.
Merci, au revoir.
Allez mon fils, la relevée, elle n'a pas...
pièce est tenant, mon frère. Voilà, on vient d'apprendre pas mal de choses sur cette 34e édition de ce festival Québec BD.
Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à lui, Thomas Louis Côté, c'est ça, hein?
Oui. Oui, il est à la tête de ce mouvement depuis 16 ans.
J'ai pris goût de nouveau aux BD en recevant de temps en temps quelqu'un qui venait nous présenter des BD et c'était toujours intéressant. C'est vrai qu'on oublie un peu cet art-là.
Tu as entendu ce que j'ai dit, là, je vais m'y remettre.
Oui, oui.
Je ne vais pas toucher aux BD.
Tu iras apprendre à faire des dessins. On remercie aussi...
Non, moi, je le dis simplement, tu en fais, et puis moi, je vais te lire.
Oui, d'accord.
On
remercie Francine Bernier aussi, la directrice générale artistique de l'Agora de la danse. Alors, pour ceux qui auront la chance d'aller voir les spectacles en salle, eh bien, allez-y, si c'est des heures qui vous conviennent. Et puis, sinon, les autres, vous pourrez suivre ça sur le web. Nous, on n'aura pas la chance d'aller les voir en salle avec Fulgence, parce qu'on termine notre émission à 18h. Donc, ça va faire un peu juste.
Oui, oui. Alors, tu me permets de donner... Je donne rapidement le site de québecbd.com.
Bien sûr.
Et puis, vous avez toute la programmation là-bas pour ceux, les amoureux et bien ceux qui aimeraient découvrir ce festival.
OK. Merci à toutes et tous pour nous avoir suivis. Merci, Maurice Bolduc, pour les musiques. Merci à toi, Fulgence. Et puis, on se retrouve demain.
Aussi. On se retrouve demain.
Oui.
Même
heure, même endroit.
Même heure, même endroit, même local, même studio.
Bye bye.
Allez, ciao.
Bye.